Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Quel bilan peut-on tirer d'une année politique, économique et sociale au Maghreb Moyen-Orient entre mi-2019 et mi-2020? S'il sera évidemment question du Liban, mais pas des conséquences de l'explosion du 4 août, la revue trimestrielle Moyen-Orient analyse plus largement les révoltes populaires régionales dans un numéro titré « Bilan géostratégique » que nous détaille son rédacteur en chef, Guillaume Fourmont. À suivre également le retour de la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchard. Chantier au Caire. Bonjour Guillaume Fourmont.
Bonjour Éric Bataillon.
Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Moyen-Orient, le numéro 47 qui est en kiosque n'est autre que l'Atlas qui passe en revue l'ensemble des pays de la zone. C'est ce qu'on appelle la fiche pays. Guillaume Fourmont, dans l'année écoulée, la région a-t-elle d'abord été marquée par les guerres civiles en cours en Syrie, au Yémen et aussi en Libye?
Oui, bien entendu, mais nous sommes au-delà de simples guerres civiles, puisqu'on est dans de véritables jeux de puissance, à la fois en Libye, au Yémen et en Syrie. En Syrie, la guerre s'oriente vers une victoire, je mettrai des guillemets, du régime de Bachar el-Assad, puisque, à part la partie nord du territoire sous l'autorité, encore avec des guillemets kurdes, Bachar el-Assad règne en son royaume et est devenu un acteur primordial, incontournable, grâce au soutien de la Russie et de l'Iran. La Libye s'engage dans un grand jeu méditerranéen très important, notamment avec l'engagement de la Turquie, mais aussi de la France. Quant au Yémen, c'est malheureusement un pays sacrifié. Ce pays est sous les bombes saoudiennes depuis maintenant 5 ans, depuis mars 2015. Toutes ces infrastructures sont détruites, écoles, hôpitaux, l'accès pour les organisations humanitaires aux populations civiles en détresse est très compliqué. Même l'ONU ou la Croix-Rouge ont du mal à accéder à ce pays. Donc effectivement, encore une fois, je ne dirais pas particulièrement 2020, mais encore une fois, la région est marquée par des guerres qui ne s'arrêtent pas.
Et alors l'autre nouveauté de ces derniers mois semble être ces révoltes populaires qui ont surgi presque simultanément dans des pays aussi différents que le Liban, l'Algérie et l'Irak. C'est donc cela l'autre nouveauté de l'année?
Oui, et il ne faut pas oublier l'Iran, parce qu'il y a également eu des manifestations à l'automne dernier en Iran contre une hausse soudaine du prix de l'essence. Et là encore, la population est sortie dans la rue pour critiquer des gouvernements contre leur incompétence, le clientélisme, la corruption. Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les différents pays que vous avez cités. En effet, en Irak, ça a démarré sur un besoin d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité. Au Liban, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une taxe WhatsApp qui depuis a été retirée par le gouvernement. Mais on voit le Liban aujourd'hui qui s'était arrêté à cause de la crise sanitaire du virus et de la maladie de la Covid-19. Aujourd'hui, le Liban est rentré dans une phase, aujourd'hui je parle du mois de juillet 2020, une phase de grande violence sociale avec des affrontements contre les forces de l'ordre, un désarroi de la société libanaise qui s'illustre dans son quotidien, incapable d'acheter ne serait-ce que à boire, à manger, avec une très forte hausse de l'inflation, une situation économique catastrophique, une dette publique de l'État insoutenable. Et donc, il y a un véritable rapport de force, force au sens propre, qui s'est installé entre la population libanaise et le pouvoir public.
Mais en même temps, ce sont des révoltes populaires, donc économiques, mais aussi qui marquent un besoin d'une identité, sinon nouvelle, en tout cas renouvelée. C'est le cas du Liban, de l'Algérie et aussi de l'Irak.
En effet, ce qui est intéressant à noter dans ces pays-là, c'est qu'il y a une certaine union entre les classes sociales, les âges, hommes, femmes, communautés religieuses, d'aller vraiment contre le pouvoir en place pour obtenir un meilleur avenir commun. Et ça, effectivement, on l'a noté dans les différents pays que vous avez cités, même si, malheureusement, dans un pays comme l'Irak, qui est en guerre depuis 2003, d'abord la guerre, l'invasion des Américains contre le régime de Saddam Hussein, puis la guerre contre le terrorisme, a quand même marqué les esprits et les communautés religieuses. Par exemple, une ville comme Bagdad, qui était relativement peu enclin aux divisions sectaires. Aujourd'hui, on identifie parfaitement les quartiers chiites pro-truc, les quartiers chiites pro-machin, les sunnites, les chrétiens. Il y a quand même, malheureusement, pour l'exemple de Bagdad, une véritable division. dans le quotidien, dans les faits. Après, dans les manifestations, en effet, on a noté d'aller au-delà de « on est tous irakiens ». Généralement, les slogans s'adressent au pouvoir en place, au nom d'un peuple en apparence uni, oui.
Et le conflit israélo-palestinien a-t-il encore aujourd'hui un impact fort dans la région ?
Oui, il l'aura toujours. Il ne faut pas penser que l'absence du conflit israélo-palestinien des médias, des grands médias occidentaux, signifie sa disparition. Pour les États arabes en présence, c'est primordial. Je prendrai un petit exemple. Lorsque Benjamin Netanyahou, avec l'appui de la Maison-Blanche dirigée par Donald Trump, annonce pendant sa campagne électorale et après confirmé par le fameux plan Trump présenté en janvier 2020, la Jordanie dit « attention, ça sent extrêmement mauvais ». Jordanie qui est en paix officiellement, ça sent extrêmement mauvais. Là, on peut retourner vers un conflit armé. Qu'un pays si pacifique comme la Jordanie dise ça, c'est que les tensions sont vraiment extrêmement élevées. Encore un autre exemple, le plan Trump en 2020, les conséquences, ça a été tout de suite côté palestinien, la rupture des relations économiques et autres avec Israël. Mahmoud Abbas a été extrêmement dur avec les Américains. Donc, le conflit israélo-palestinien a un impact très fort dans la région, malgré, par exemple, des supposés rapprochements saoudo-israéliens qui existent. Mais politiquement, il y aura toujours une dialectique pro-palestinienne dans la majorité des pays arabes de la région.
Alors justement, Guillaume Fourmont, vous évoquez l'Arabie Saoudite et vous signez vous-même la fiche pays consacrée à ce pays. Un an après l'affaire Khashoggi, le royaume est-il dans une meilleure passe ?
Alors, une meilleure passe, d'un point de vue médiatique, auprès des Occidentaux, l'Arabie Saoudite, elle a passé l'orage. Grâce à une formidable campagne de communication, des alliances solides avec ses principaux alliés occidentaux, mais aussi chinois, en ce qui concerne le pouvoir en place. Mais meilleure passe, c'est à voir. Le pouvoir actuel continue de s'imposer de manière verticale, c'est-à-dire la concentration des pouvoirs politiques entre les mains de Mohammed bin Salman, qui est le prince héritier et fils du roi Salman. Le roi Salman est relativement absent de la scène publique aujourd'hui. Il est très âgé, alors que son fils est très jeune, et il vante une image nationaliste, voire hyper nationaliste et jeune, d'un pays qui veut changer. D'où des changements un petit peu cosmétiques, l'ouverture de cinéma, l'organisation d'événements sportifs importants comme le Dakar. Le Paris-Dakar n'a plus lieu ni en Afrique ni en Amérique latine, mais en Arabie Saoudite, et ce, je crois, jusqu'à l'édition 2023. Mais ils ont aussi fait du catch féminin, des combats de boxe, des choses qui étaient complètement inédites dans ce pays, des concerts. En revanche, de l'autre côté, il y a une restriction, un contrôle absolu de tout ce qui est droit politique. Bon, après, quelle est la définition de droit politique en Arabie Saoudite ? C'est une autre histoire, mais il n'y en a pas. Et donc, Mohammed bin Salman continue, non pas par la violence, l'affaire Khashoggi dont vous parlez est une horreur, et montre la violence dont peut être capable le régime de Riyad, mais maintenant, il y va par des mesures plus directes, comme par exemple, juste avant l'été, l'emprisonnement de Mohammed bin Nayef, l'oncle du prince héritier, qui était un ancien ministre de l'Intérieur et l'un des hommes appelés à régner il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, il est écarté, sans doute parce qu'il représente une menace pour Mohammed bin Salman. Après, il y a la question économique. L'Arabie Saoudite peut avoir des gros problèmes économiques eu égard au prix du baril de pétrole, qui n'est qu'à 30 dollars environ, alors qu'elle aurait besoin d'une moyenne de 100 dollars pour subvenir à ses besoins. Peu importe qu'elle ait des fonds souverains ou de l'argent ici et là, elle a besoin quand même pour maintenir son train de vie d'avoir un baril assez élevé. Et donc, elle est quand même dans une situation financière un peu délicate. Et la fin de la crise sanitaire due à la Covid-19 nous le dira. Crise à laquelle l'Arabie Saoudite est extrêmement exposée. Hein. Pour rappel, c'est le pays le plus touché du Moyen-Orient après l'Iran et la Turquie. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer d'ici à l'automne.
Alors, dans ce numéro 47 également, Guillaume Fourmont, vous traitez plusieurs questions d'ordre politique et sociétal. D'abord, le féminisme islamique, qui serait, selon l'autrice de l'article, Zahra Ali, un oxymore, c'est-à-dire ?
Alors, en fait, elle se pose la question si c'est un oxymore. C'est-à-dire, est-ce que féminisme et islamisme se contredisent ? Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que Zahra Ali interroge le concept même de féminisme. Et elle considère que les mouvements féministes n'ont pas à se définir au singulier. Ils sont pluriels, variés. Le féminisme n'est pas un mouvement de libération de la femme laïque et vraiment libertaire comme on a pu l'entendre en Europe. Et elle le compare, donc elle parle d'un champ féministe au pluriel avec un éventail d'interventions plus ou moins variées. Et donc, en cela, elle met carrément en question la domination du modèle occidental, en fait, de cette voie d'émancipation des femmes. Donc elle prend comme exemple, il y a eu l'émancipation du féminisme noir aux États-Unis, par exemple, dans les années 60-70, qui à l'époque déjà critiquait aussi le féminisme postcolonial, où certains avaient aussi un combat pour les droits civiques. Là, elle considère qu'au sein même de l'islam, il y a une place pour la voix de la croyante. Donc, en s'appuyant sur des notions fondamentales de l'islam, elles affirment, ces femmes issues du féminisme dit islamique, affirment l'égalité de tous et de tous, hommes et femmes, face à Allah. Et donc, ça peut passer par exemple par l'égalité du croyant pour diriger la prière, par exemple, qui est donnée par les hommes. Voilà. En ça, c'est assez intéressant de voir la diversité du féminisme.
Vous abordez également l'influence numérique des imams saoudiens dans un article aussi très intéressant. Mais un autre aspect qui est passionnant dans votre revue, c'est le regard distancié qui est porté sur l'histoire de la région. Et cette fois, Moyen-Orient évoque une colonisation atypique du Maghreb, précisément en Libye. Pourquoi cette colonisation est-elle jugée atypique ?
Elle est atypique parce qu'elle ne répond pas aux critères, entre guillemets, de ce qu'on a entendu par colonisation du Maghreb. Les pays du Maghreb, comme nous le savons tous, ont été marqués par une très longue colonisation française. Les Français arrivent en Algérie en 1830 et s'en vont après une guerre terrible en 1962. La Libye, ça dure très très peu de temps. Et c'est une chronologie marquée par beaucoup de violence. Les troupes italiennes débarquent à Tripoli fin 1911. Et 30 ans plus tard, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Ils doivent laisser place, disons, aux alliés, notamment la France, qui, pour rappel, sera présente au Faisan, qui est toute la partie sud de la Libye, après la Seconde Guerre mondiale, et atypique parce que les Italiens ont mis énormément de temps à s'installer. Ils s'en vont dans les années 40, mais ils n'ont pas vraiment réussi à s'installer dans le pays avant les années 30. Pour pacifier les routes, pacifier les relations avec les locaux, pouvoir installer une véritable colonisation humaine, c'est atypique par rapport à ce qu'a pu faire le pouvoir français en Algérie ou au Maroc, par exemple.
Donc c'est une colonisation dont il reste peut-être peu de traces.
En effet, peu de traces, oui, tout à fait. Et puis, notamment avec le régime de Kadhafi entre 1969 et 2011, Kadhafi était très fier de ne pas revendiquer ce passé italien quand même.
Merci Guillaume Fourmont.
Merci Eric Bataillon.
À lire donc le numéro 47 de votre revue trimestrielle Moyen-Orient et notamment l'Atlas géopolitique de l'année écoulée.
Sur RFI.
Le retour de la revue de presse régionale et nous retrouvons avec plaisir Alexandre Duchantier au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, votre actualité cette semaine, c'est le centenaire du Liban et la visite d'Emmanuel Macron qui n'ont pas fini de faire couler de l'encre.
Oui, et l'image du président français décorant la chanteuse libanaise Fayrouz n'a pas fini de susciter des commentaires. Alors, certains saluent la tension du président français à l'égard d'un symbole du Liban, d'autres y voient l'intelligence d'un Emmanuel Macron peu connu dans la région qui cherche à profiter de la popularité du dernier mythe vivant de la chanson arabe, et il y a aussi des journaux qui ont repris le tableau d'un peintre égyptien qui a représenté un Macron en casque et armure décorant Fayrouz, un retour élégant de l'occupant selon le peintre. Alors pendant ce temps, la presse syrienne, elle, rendait un vibrant hommage à Youssef El-Adma, le premier chef de la résistance syrienne contre l'occupation française il y a un siècle, et ce n'est pas le Grand Liban que les éditorialistes célébraient, mais le souvenir de la Grande Syrie, la Syrie d'avant la création du Liban par l'occupant français. Des commentateurs arabes soulignent enfin l'échec d'un rapprochement entre la France et le Hezbollah, symbolisé par le boycott du représentant du parti pro-iranien de la réception offerte par le président libanais en l'honneur d'Emmanuel Macron.
Michel Paul, votre actualité à vous, c'est toujours la Covid-19. Tous les records sont battus, Michel, mais pour vos journaux, pas dans le bon sens.
Oui, un zéro pointé, Eric, c'est la note que le quotidien Yediot Aharonot accorde aux responsables israéliens de la lutte contre le coronavirus, et à leur tête, bien sûr, le Premier ministre Netanyahou et aussi son suppléant Benny Gantz. Des chiffres catastrophiques qui figurent à la une de tous les quotidiens, plus de 3000 nouveaux cas par jour, près de 1000 morts depuis le début de la pandémie. Israël donc bat tous les records, soulignent plusieurs commentateurs avec sarcasme. Solution intermédiaire, à partir de lundi, près de 600 000 Israéliens vivant dans des zones dites rouges seront reconfinés. Et puis on parle aussi d'un confinement général pour les fêtes du Nouvel An juif, dans 2 semaines exactement. Selon Mariv, 41% des Israéliens s'opposent à une telle mesure. Dans la presse aussi, les accusations de politiciens du Likoud, le parti du Premier ministre israélien, qui figure également dans un tweet de son fils Yair Netanyahou, à l'origine de cette nouvelle surcontamination, les manifestations face à la résidence du Premier ministre à Jérusalem et aussi ailleurs dans le pays.
Israël, Émirats Arabes Unis, Michel, les événements ne prennent pas la tournure souhaitée par le Premier ministre israélien.
Et le titre principal ce week-end est repris du New York Times. Selon le journal, Benjamin Netanyahou, contrairement à ce qu'il affirmait, aurait accepté par avance la vente des super chasseurs F-35 aux Émirats Arabes Unis durant tout l'été, et en tout cas depuis la publication de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats, le Premier ministre israélien proclame ne pas avoir donné de feu vert à cette transaction. Alors la normalisation avec les Émirats Arabes Unis, en tout cas, continue à susciter de nombreux titres. Haaretz affirme notamment que cet accord a permis de sortir de l'ombre des relations discrètes et même secrètes entre les deux pays, des relations qui duraient depuis 25 ans. Et puis, plusieurs commentateurs soulignent que, contrairement à ce qui se passe avec l'Égypte et la Jordanie, les relations Israël-Émirats sont beaucoup plus chaleureuses. Selon le journal, en tout cas, la cérémonie de signature de l'accord à la Maison-Blanche risque de se transformer en véritable champ de mine politique.
Alexandre, c'est la saison des bébés dauphins en mer Rouge.
Oui, c'est le journal Mas Riyom qui y consacre un article, car les premiers accouchements ont commencé selon l'Association pour la protection des dauphins de mer Rouge. Alors, des bébés dauphins qui ont passé 12 mois dans le ventre de leur mère et qui, après leur naissance, passeront 18 mois en compagnie de leur mère pour l'allaitement et l'acclimatation à la vie marine. L'association a lancé un appel aux bateaux de plaisance pour qu'ils évitent de pourchasser les dauphins afin de les admirer. Car les dauphins ont 2 ennemis, l'homme qui les étouffe par amour et le requin qui les dévore par appétit.
Et nous retrouvons votre photo, Michel, dont le sujet remonte à fort longtemps.
Oui, c'est la photo de chapiteau remarquablement bien conservé. Il y a 2700 ans, il surplombait les colonnes d'un palais royal dans le sud de Jérusalem, en dehors de ce qui est aujourd'hui la vieille ville. Une découverte extraordinairement importante, affirment les archéologues.
Merci Michel et merci Alexandre. Merci également à Mathias Golshani qui réalise chaque semaine Orient Hebdo, une émission de RFI que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Demain, nous parlerons du Liban à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth et aussi des pouvoirs forts avec l'écrivain égyptien Alaa El Aswany dont nous avons lu le dernier livre, Le syndrome de la dictature, publié chez Albin Michel. À demain donc, dans quelques secondes, le journal. En hommage